Radio Okapi. Le journal, présenté par Lievin Mbwinga.
Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur Radio Okapi. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, crise dans l'est de la RDC, UNICEF alerte. L'agence onusienne et ses partenaires exigent protection des civils et continuité de services publics à toutes les parties prenantes dans ce conflit, en ce moment où l'eau potable et l'électricité manquent terriblement et les épidémies de choléra et de variole se portent toujours bien dans l'est de la RDC. C'est confirmé, plus de 170 000 agents et fonctionnaires de l'État mécanisés en 3 ans vont recevoir leur salaire. Confirmation du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, mais un député national s'indigne. Plus de 400 000 fonctionnaires de l'État mécanisés avant les 170 000 restent impayés jusqu'à ce jour, à suivre dans ce journal. Interruption de la desserte d'eau de la régie des eaux dans la partie ouest de Kinshasa. Les habitants de ce coin vont enfin retrouver le sourire. La panne survenue à l'usine de captage d'eau du quartier Ozone est réparée, confirme la régie des eaux. Son directeur général nous en parle dans ce journal. David Chilumba est notre invité. Bonjour à tous. D'abord, cet appel de l'UNICEF à toutes les parties prenantes dans la crise qui secoue l'est de la RDC. L'agence onusienne et ses partenaires leur demandent d'assurer la protection des civils et la continuité de services publics essentiels. Selon l'UNICEF, le violent conflit qui a éclaté fin janvier a privé d'eau potable, de services d'assainissement et d'électricité dans une grande partie de 2 millions d'habitants de la ville, dont un tiers a récemment été déplacé. Jean-François Basse, son représentant ad interim en RDC, rappelle que les enfants et les familles ont plus que jamais besoin d'eau salubre pour se prémunir et éviter une crise sanitaire plus grave pendant que les épidémies de choléra et de variole se poursuivent dans l'est du pays. Pele Kipelamondo.
Pour l'UNICEF et ses partenaires, toutes les parties au conflit ont le devoir de protéger la ressource en eau, conformément à la liste des principes de Genève sur la protection des infrastructures hydrauliques. Dans un communiqué rendu public hier, lundi à Goma, l'UNICEF renseigne que la crise humanitaire qui secoue l'est de la RDC a contraint des centaines de milliers de personnes à quitter les anciens sites de déplacement autour de Goma pour rejoindre des zones de réinstallation où les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont limités. Le conflit a également entraîné la destruction d'infrastructures d'approvisionnement en eau largement utilisées auparavant. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire, l'UNICEF dit avoir rapidement réagi en acheminant de l'eau par camion vers 3 établissements de santé, dont l'hôpital général de référence de Virunga, qui a pris en charge environ 3 000 patients blessés. Toujours d'après la même source, environ 700 000 personnes disposent désormais d'un accès quotidien à l'eau par l'intermédiaire de la régie des eaux, suite à l'approvisionnement par l'UNICEF et la MONUSCO de 77 000 litres de carburant. Cela a permis aux 5 principales stations de pompage de redémarrer après avoir été arrêtées en raison de coupures de courant.
Changement de date pour la 4e édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Notez bien, prévu du 4 au 6 mars 2025, cette opération démarre demain mercredi 5 mars à Kinshasa pendant 2 jours. Mission générale de cette édition, réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine, la lutte contre la polio, la malnutrition et le cancer du col à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique. Il sera aussi question d'évaluer le niveau de mise en œuvre des engagements à tous les niveaux, international, national et provincial, vis-à-vis de la déclaration de Kinshasa et au final obtenir l'engagement effectif du gouvernement et de ses partenaires à appuyer l'approche inclusive et synergique vaccination, nutrition, l'éradication de la polio, la lutte contre le cancer de col, coulée sous forme de la déclaration révisée de Kinshasa. Paye de salaire de plus de 170 000 agents et fonctionnaires de l'État mécanisés en 3 ans, bientôt une réalité et ça sera dès la fin du premier trimestre prochain. Mais il y a un mais, si le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique s'en félicite, le député national Niene Mo Sanguma crie à l'injustice. Comment expliquer que plus de 400 000 fonctionnaires de l'État mécanisés avant les 170 000 restent impayés jusqu'à ce jour, s'interroge-t-il. Il ajoute que certains d'entre eux ont même travaillé plus de 35 ans sans salaire. À travers une question orale avec débat, l'élu de Guémena dans le sud Oubangui invite le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à l'Assemblée nationale dès la rentrée parlementaire afin de fournir de plus amples explications au peuple congolais à ce sujet. Niené Moussang Gouma est au micro de Michel Kifindangoy.
Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a confirmé le 1er mars dernier sur les ondes de Radio Okapi que 174 000 agents et fonctionnaires ont été mécanisés en l'espace de 3 ans, donc de 2022 à 2025. Il a également assuré que leurs salaires et primes seront versés d'ici à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Cependant, cette annonce met en lumière de profondes injustices et un manque flagrant de transparence au sein du ministère de la fonction publique. Comment expliquer que plus de 400 000 fonctionnaires congolais déjà mécanisés restent impayés, certains ayant servi l'État plus de 35 ans sans percevoir le moindre salaire, alors que ces 134 000 nouveaux mécanisés seront rémunérés en seulement 3 ans. Dans ma province du Sud Oubangui, plus de 20 000 fonctionnaires mécanisés attendent toujours leur salaire. Face à cette situation inacceptable, j'ai déposé une question orale avec débat et il est grand temps que toute la lumière soit faite sur cette gestion arbitraire de rémunération.
451 millions de dollars américains, c'est ce qu'ont coûté la présidence, la primature et le Parlement à l'État congolais au premier semestre 2024. Des chiffres publiés par la coalition Le Congo n'est pas à vendre dans un rapport parvenu hier lundi à Radio Capi. Elle ajoute qu'à lui seul, le budget de la présidence a explosé les prévisions, atteignant 99% de son enveloppe annuelle en 6 mois. Le Congo n'est pas à vendre dénonce tous ces faits dans un document. Michel Kifindangoy.
Alors que le président de la République venait d'annoncer le 29 janvier dernier une série de mesures visant à réduire les trains de vie des institutions en guise d'efforts de guerre, le Congo n'est pas à vendre estime que ces mesures semblent irréalisables. Dans son rapport, cette coalition réunissant ces associations congolaises et non congolaises engagées dans la lutte contre la corruption examine les inégalités sociales du personnel de l'État comparées aux institutions politiques. En guise d'exemple, elle dénonce le fait que les militaires, les policiers et les enseignants touchent moins de 100 dollars par mois alors que les députés nationaux touchent des émoluments et autres avantages exorbitants estimés à plusieurs milliers de dollars. Ce rapport présente aussi les écarts entre les fonds alloués aux fonctionnement et intervention des institutions politiques par rapport aux investissements de l'État dans le secteur de la vie nationale. À titre illustratif, le Congo n'est pas à vendre révèle que les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 121% au premier trimestre 2024, alors que le financement des réformes et le fonctionnement des services déconcentrés n'ont pas connu de décaissement. Les dépenses en investissement sur ressources propres ont été exécutées à seulement 29%.
L'inspection générale des finances s'en va en guerre contre la corruption. L'IGF, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, a lancé une campagne de lutte contre ce fléau hier lundi à Kinshasa. Cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au nom du président de la République. Cette vaste activité qui a eu pour cadre le centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa devait connaître également la participation de plusieurs autres ministères. C'est plus de 2000 jeunes représentant la jeunesse congolaise qui y sont conviés. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et les caucus intercommunautaires des deux Kivu et de l'Ituri autour d'une table hier lundi à Kinshasa. Au menu, la question sécuritaire évidemment, mais surtout pour répondre aux préoccupations concernant les attaques sur les réseaux sociaux visant la communauté swahilophone. Selon Jacquemain Chabani, les croyances négatives sur les communautés du Kivu et de l'Ituri sont infondées au sein de la société congolaise. Toujours d'après lui, la propagation de la stigmatisation pendant cette période d'agression du pays dans sa partie est est une désinformation et une propagande visant à créer des divisions et des conflits tribaux. Le caucus a souligné que l'agression contre la RDC affecte toutes les communautés du pays et ont appelé à la solidarité et à l'unité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a également exhorté les caucus à promouvoir la coexistence sociale et la cohésion nationale parmi les populations vivant dans les régions occupées de l'Est. Mais du côté de l'Ituri, à Bounia précisément, le dialogue communautaire organisé par l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI en sigle, pour le retour de la paix en province, s'est terminé hier lundi en queue de poisson. En cause, l'auto-exclusion de la communauté Hema, regroupée au sein de l'association NT, qui justifie son retrait par l'aggravation de la situation sécuritaire en province. De son côté, la communauté Lindou, réunie dans la structure Lori, ainsi que d'autres acteurs indépendants, déplorent le boycott par NT de ses assises pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
L'UNADI qualifie la tenue de ces dialogues de panacée aux problèmes d'insécurité causés par les groupes armés Kodeko et Zaïre, entre autres dans les territoires des Djougou, épicentre des conflits armés qui perdurent depuis plusieurs décennies en Ituri. Au cours de ses assises, l'association culturelle NT, qui regroupe le peuple Hema, s'est désengagée de cette démarche en posant quelques préalables.
La neutralisation de tous les groupes armés afin de restaurer l'autorité de l'État. La cessation des massacres et des tueries de la paisible population, ces cibles n'étant pas réunies. Le peuple Hema trouve inopporté la tenue de ces dialogues d'aujourd'hui et retire sa participation pour parler de paix dans son format actuel.
Pour sa part, la communauté Lori indique que les Ituriens sont des frères et doivent résoudre leurs problèmes entre frères. Elle qualifie ce retrait d'un thé, des manœuvres dilatoires, son porte-parole.
Il y a beaucoup de choses à se dire. Nous avons qualifié cette motion de manœuvre dilatoire et de la peur noire qui a pêche les francs-parler.
Un comité mixte a été mis sur pied pour sensibiliser les membres de l'association NT à revenir à la raison pour donner une chance au dialogue franc. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Goma, les éléments du M23 qui occupent la ville poursuivent la traque des présumés militaires Ouazalendo et FDLR dans les structures médicales et les quartiers. Après l'hôpital Elf Africa, ces rebelles ont mené une opération similaire la nuit dernière à l'hôpital Sebekandocho de Goma. Au moins 112 personnes ont été emmenées par le M23 au cours de cette opération, renseignent plusieurs sources locales. Suivez ce reportage de Papi Martial Moukeba.
D'après des témoignages donnés par des voisins de l'hôpital, les rebelles ont fait incursion au sein de l'hôpital CBC Andocho dans les quartiers Kieshero vers 3h du matin. Ces derniers ont emmené une bonne centaine de personnes, notamment des gardes malades, mais aussi des malades guéris, affirmé plusieurs sources. Toutes ces personnes sont considérées par les M23 comme des militaires et Ouazalendo qui se seraient cachés dans les hôpitaux. Nos sources affirment également ce matin qu'une dizaine de civils qui avaient été pris dans les lots ont été relâchés après vérification et commencent à regagner l'hôpital d'après certaines sources. Jusqu'ici, personne ne sait dire là où ces personnes ont été conduites dans un cas de formation ou bien ont-elles été arrêtées. Ce sont des questions que se pose la population de Goma. Celle-ci exprime une angoisse grandissante au regard de ces opérations menées par les rebelles du M23 dans la ville de Goma. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les responsables de l'hôpital CBC Andocho pour plus de détails.
Justice, la cour d'appel de l'ex-Kassaï occidental organise depuis hier lundi les audiences foraines à Masuika dans le territoire de Luisa, ce en rapport avec les atrocités liées au phénomène Kamuinasapu survenu entre 2016 et 2017 dans la région du Kassaï. Plus de 250 victimes se sont constituées parties civiles contre 6 présumés auteurs qui sont entre les mains de la justice. Leurs actes posés se sont caractérisés par des violations massives de droits de l'homme et du droit international humanitaire. Les audiences se déroulent avec l'appui du Fonds national de réparation des victimes Fonarev. Selon son point focal au Kassaï central, le souci est de voir les responsabilités des uns et des autres établies et les victimes obtenir justice et réparation. Je vous propose d'écouter Miran Moulumba. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
Il est vrai que dans le territoire de Luisa, il s'est commis pratiquement plusieurs exactions assimilables, bien entendu, aux violations systématiques des droits de l'homme. Mais pourquoi pas du droit international humanitaire. Il a plu au Fonds national des réparations de pouvoir appuyer la cour militaire pour devoir passer au déroulement de ces audiences foraines qui ont suffisamment un caractère pédagogique dans la mesure où il fallait permettre à la population de ces coins de pouvoir s'imprégner de la situation que la République de l'impunité appartient désormais à l'histoire. Ce qui fait que tous celui qui se serait impliqué de manière directe ou indirecte dans les atrocités de Fémé Kamouna-Sapou verra la justice sur son chemin. Et étant donné que la justice militaire, d'une part, qui semblait éprouver de minières difficultés pour la tenue de ces audiences, voilà pourquoi la direction générale n'a pas hésité de pouvoir répondre, bien entendu, à la demande exprimée par la cour militaire de l'ex-Kassai occidental.
Actualité internationale.
Au Sénégal, alors que le gouvernement a annoncé des poursuites contre l'ancien président Macky Sall, l'Assemblée nationale accélère les choses. Une intercommission planchée hier lundi 3 mars sur un projet de loi qui permettrait au président de la République du Sénégal de ratifier une convention de transfert des détenus avec le Maroc où vit l'ancien président.
L'invité.
La population habitant la partie ouest de la ville de Kinshasa peut finalement revoir l'eau jaillir au robinet depuis le samedi 1er mars. En effet, l'eau n'a pas coulé à la suite de l'arrêt de l'usine de captage d'eau du quartier Ozone. La régie des eaux dit avoir remédié à cette panne. Pour en parler, nous recevons le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, parle aussi du programme des raccordements sociaux de 50 000 nouveaux abonnés dans la ville de Kinshasa. Il s'entretient ici avec Blaise Shindani Kambala. Suivez.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour.
On a appris qu'il y avait une panne au niveau du captage, hein, ici à l'Ozone. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste?
En fait, effectivement, on a connu une panne au captage de l'usine d'Ozone depuis samedi la nuit. Nous avions observé une fuite sur une conduite d'aspiration. Cette fuite laissait jaillir beaucoup d'eau. Nous avons arrêté l'usine pour réparer la fuite. Et on pensait que ça allait être un problème résolu très vite. Malheureusement, aussitôt qu'on a fini de réparer la fuite, on a lancé les pompes. Les pompes prenaient beaucoup d'air. Parce que la conduite est devenue vide, il n'y avait pas de l'eau dans la conduite. Les pompes prenaient beaucoup d'air. Donc l'air entrait de quelque part. Il fallait faire des investigations toute la journée de dimanche, la nuit de dimanche à lundi pour trouver quelle était la cause de cette entrée d'air dans les conduites. C'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'on a finalement identifié qu'il y avait trois vannes qui étaient blessées par des débris solides que l'on a aspirés dans le fleuve. Quand nous disons à nos compatriotes de ne pas tout jeter dans le fleuve, de ne pas faire la niaiserie, c'est pour des raisons pareilles.
Pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Quelles dispositions avez-vous prises pour que pareille situation ne se reproduise plus?
La première disposition, c'est toujours éduquer la population. Quand vous jetez des choses dans le fleuve, nous prenons de l'eau sur le fleuve pour vous servir et nous prenons des quantités fortes, des quantités grandes. Ça nous affecte. Ça nous affecte dans les produits chimiques, ça nous affecte dans les équipements. Bien sûr, nous protégeons nos équipements au maximum que l'on peut, mais il y a toujours des limites. La deuxième chose, chaque ouvrage, nous apprenons pour faire mieux l'ouvrage qui vient. On apprend aussi à des autres de partout au monde. Et comme le fleuve, ça a une caractéristique un peu différente sur le plan pollution que les autres grandes rivières au monde, il faut que nos mesures d'ingénierie tiennent compte de cela, non seulement pour cette station, mais pour les stations à venir. Mais la solution ultime, il faut arrêter la pollution. On ne jette pas tout dans nos rivières.
C'était le seul problème que vous avez à Kinshasa, le captage de la station d'Ozone. Ailleurs, ça va.
En tout cas, nous avons 6 usines de traitement dans la ville de Kinshasa. Ozone, Njili, Lukunga, Lukaya, Ngaliema et nous sommes aussi à Maluku, sans compter les petites stations auxiliaires où nous avons des forages à gauche à droite. De manière générale, partout il y a le service, il n'y a qu'à l'Ozone où on avait de problèmes, donc on a remis Ozone en service, donc le service est assuré partout sur l'ensemble de la ville. Les petits problèmes au réseau avec des fuites, c'est le pain quotidien, on les résout au jour le jour.
On en profite pour poser la question, on a appris que on voulait desservir l'eau à Bumbu, parce que Bumbu est resté longtemps sans eau. Qu'en est-il au juste?
Ben oui, l'eau va arriver à Bumbu, mais pas seulement à Bumbu. Rappelez-vous, l'année passée, nous avons dit que nous commençons un programme de raccordements sociaux. Nous voulons raccorder 50 000 nouveaux abonnés dans la ville de Kinshasa. Et je lance encore un appel à tous les Kinois. Nous avons dit, sans une parcelle, sans le robinet de la régie des eaux, allez en ligne, www.regideseaux.cd, faites une demande de raccordement et nous allons vous raccorder. Donc, Ozone Module 3 va être terminé avant la fin de l'année 2025. Ça nous donne encore de l'eau pour près de 2 millions de personnes dans la ville. Le deuxième module lui-même, nous ne fonctionnons pas à la capacité totale parce que notre réseau a encore des limites. Nous sommes en train de faire près de 45-46 kilomètres de tuyaux primaires, secondaires et tertiaires dans la ville. Donc, il y aura de l'eau là où il n'y a pas eu de l'eau avant, y compris Boumbou et bien d'autres quartiers de la ville. Nous allons reprendre la conversation avec les citoyens de la ville au cours de cette année, comme on l'a fait l'année dernière, où nous allons encore aller d'une commune à l'autre pour appeler les gens à se raccorder, mais aussi discuter des problèmes de la régie des eaux. L'eau, c'est un problème citoyen, parce que l'eau, c'est la vie. Nous vous parlons de nos problèmes, vous nous parlez de vos problèmes, et c'est de cette manière qu'on résout les problèmes. Et le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est de vous donner un service régulier, un service permanent, parce que nous connaissons l'importance de l'eau dans la vie de chaque jour. Nous avons aussi des problèmes. Le premier, payer vos factures. Le deuxième, il faut qu'on parle du tarif de l'eau, aujourd'hui qui n'est pas rémunérateur. Pour chaque mètre cube d'eau que nous vendons, nous perdons de l'argent. Ce n'est pas une solution à long terme. Si on doit arriver à donner de l'eau à tout citoyen congolais, on a besoin de moyens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 36% de la population qui a accès à l'eau potable. À l'allure où nous allons, ça nous prendra 50 ans, 100 ans pour qu'on y arrive. Il faut qu'on arrête, pour qu'on résolve ce problème dans les 10 prochaines années où chaque Congolais a accès à l'eau potable. Ça demande des moyens et c'est une conversation, à mon avis, citoyenne que nous devons avoir chaque soir à la table de la cuisine, chaque soir à la salle à manger.
Monsieur le directeur général de la Régie des Eaux, je vous dis merci beaucoup.
Merci d'être venu au captage d'Ozone et bienvenue encore une fois de plus.
Voilà, c'est sur ces assurances de la Régie des Eaux que s'arrête ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Pelé Kipela, Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Mimi Kindou. Excellente journée à toutes et à tous.